Bonsoir. Prenons vos Bibles, j'espère que vous en avez une, et trouvez avec moi Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 9. Apocalypse chapitre 1, verset 9, « Moi, Jean, » donc ça c'est l'apôtre Jean qui parle ici, « votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. » Alors j'aimerais ce soir revenir sur une phrase au verset 10. Vraiment, je n'essaie pas d'aller aussi lentement que possible, hein. Mais j'ai pensé, bon, c'est une phrase qui quand même met le décor, nous mène dans la scène dans laquelle va se dérouler tout ce livre, hein, et donc ça vaut la peine de la comprendre. Il dit au verset 10 que je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et la voix, il dira, hein, que nous avons lu, vient de celui qu'il décrit juste après, qui est celui comme un fils d'homme. Il décrit le Seigneur Jésus. Mais il dit, dans Louis II, 79, il dit « Je fus saisi par l'Esprit » au verset 10. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction pour cette phrase? Au lieu de « Je fus saisi par l'Esprit » E majuscule, est-ce que quelqu'un d'autre a une autre traduction? Ok, « Je fus ravi en esprit » et donc le E sur l'esprit et j'imagine minuscule. Voilà, on a ces deux options. Je fus saisi par l'Esprit majuscule qui fait référence donc au Saint-Esprit. Ou je fus ravi en esprit, c'est-à-dire son propre esprit. Et il faut savoir que, comme en français, en grec aussi, c'est le même mot. En grec, on n'a pas non plus des majuscules, des minuscules. Le texte grec n'a même pas des points, des virgules, hein, tout, même pas d'espace entre les mots, en fait. Lire un manuscrit grec tel qu'il a été écrit est quelque chose de très, très difficile, enfin, si on n'a pas l'habitude. Mais maintenant, quand on lit le grec, ils mettent quand même des points, des virgules, des espaces entre des mots pour le rendre plus facile. On a l'habitude, nous, de faire cela. Mais ça, c'est quelque chose qui est venu plus tard, des marques de ponctuation. Et donc, esprit peut être le Saint-Esprit, c'est parfois référence au Saint-Esprit, ou parfois l'esprit de l'homme. Et dans le grec, il y a deux mots. Il y a le mot pour « en », qui en grec est aussi « en », et puis le mot « esprit ».« En esprit », c'est ce qu'il y a littéralement. « J'étais en esprit » ou « je fus en esprit ». Vous avez le Darby qui le traduit ainsi. « Je fus en esprit dans la journée dominicale. » C'est intéressant, j'avais pas regardé ça pour la dernière fois, mais le traduit « journée dominicale ». Ou le Martin, qui David Martin a vécu au 17e et début du 18e siècle, donc 1600 et quelques. Et sa Bible qu'il a traduit fut imprimée après sa mort en 1744, et il le traduit ainsi. « Or, je fus ravi en esprit un jour de dimanche. » Lui aussi utilise le mot « dimanche ». Mais Louis II, 1910, dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Ravir. Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire pourquoi ce mot « ravir ». Et ça peut dire enlever par force. Et puis le deuxième sens, B, donne la lettre B, domaine religieux, dit transporter au ciel, enlevé de terre par l'effet d'une puissance surnaturelle. Ravir au ciel. Et puis il dit par analogie, transporter, élevé au-dessus de l'état d'esprit et des réalités ordinaires. Et puis il donne... Après cela, sens affaibli, procurer un vif plaisir, synonyme de charmer, enchanter, plaire. C'est comme ça qu'on l'entend le plus souvent. Ah, je suis ravi de faire votre connaissance. Mais pourquoi on a cette expression ravi de faire votre connaissance? Eh bien, parce que ravi voulait dire cette idée d'être élevé au-dessus de l'état d'esprit et des réalités ordinaires. Sous une admiration d'une joie extrême. Et pourquoi on l'utilisait comme ça? Parce que, avant cela, l'idée de ravir était en fait d'être amené et enlevé au ciel. Donc, notre expression, ravi de vous rencontrer, vient de la Bible, enfin, vient de l'usage qui est fait dans la Bible. Ici, donc, j'étais ravi en esprit. Et quatre fois en Apocalypse, il utilise cette expression, en esprit. Et on va les regarder. On va prendre le dernier d'abord, c'est en Apocalypse 21. Et je crois que ça va nous aider à pouvoir bien et avec confiance interpréter ce qu'il dit ici au verset 10 du chapitre 1. Apocalypse chapitre 21, verset 10. Vous allez retrouver cette phrase en esprit. Et il dit, Apocalypse 21, 10, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. » Nous avons donc le verbe ajouté ici, « Il me transporta en esprit. » Et l'esprit ici parle du Saint-Esprit ou de son propre esprit? C'est clair, non? Son propre esprit. Et il est transporté, pas en chair, pas dans son corps, mais en esprit. Alors, reculez de quelques chapitres, le chapitre 17, et le verset 3, Apocalypse 17, verset 3, et nous lisons ceci, « Il me transporta, comment? En esprit, où? Dans un désert. » Voilà. Alors, notez ce mot « transportant », on l'a vu au chapitre 21 et chapitre 17. Ce même mot, ne cherchez pas, mais je vais vous le lire, est utilisé par Jésus en parlant de l'homme riche et puis de l'homme pauvre qui s'appelait comment? Lazare, et c'est en Luc 16. Et Jésus dit ceci, verset 22, « Le pauvre mourut et il fut porté », ça c'est le même mot, « transporté », il fut porté par les anges, dans le sein d'Abraham, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Alors quand vous pensez à ça, Jésus dit, fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, ça veut dire là où est Abraham. Hein? même endroit où est Abraham. Est-ce que vous pensez qu'il a été transporté en corps, en chair et en os, ou ça parle de son esprit qui, lors de sa mort, est transporté et amené là où est Abraham? Je pense que nous imaginons tout de suite que ça parle de son esprit. En tout cas, c'est toujours comme ça que moi j'ai compris cette histoire. C'est son âme. Alors, cherchez avec moi 2 Corinthiens chapitre 5. Et voici la question que je veux vous poser. Est-ce que les chrétiens peuvent être transportés en esprit sans la présence de leur corps? Est-ce que le corps et l'esprit peuvent être séparés? Alors, vous faites un peu votre idée dans la tête et trouvez 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 6, où la Bible dit ceci, 2 Corinthiens 5 et verset 6, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. » Tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes dans un sens loin du Seigneur. On vous dit, Jésus a promis qu'il est toujours avec nous. C'est vrai, il est avec nous, mais nous, on n'est pas encore avec lui. Ça, c'est l'image que donne la Bible. Il est avec nous, mais on n'est pas chez lui. Nous sommes en fait loin de chez lui. Car, verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter quoi? Ce corps et demeurer où? Auprès du Seigneur. Donc, selon la Bible, on peut quitter le corps et demeurer ailleurs, près du Seigneur. Si on demeure auprès du Seigneur et il n'y a pas le corps, on est là en quoi? En esprit, forcément. Et c'est pour cela aussi, verset 9, que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc, quand on est devant le tribunal de Christ, il semble qu'on le sera en esprit. Alors, pensons à ceux qui étaient auprès de nous, pensons à Abdenour ou Dina, et on pourrait trouver leur corps. Hein, celui de Dina a été amené bien loin, au Congo, je crois, au Tchad, oui. Et puis Abdenour en Bretagne, je crois. Mais est-ce que c'est là qu'ils demeurent actuellement? Oui ou non? Non, ils sont auprès du Seigneur. Ils sont auprès du Seigneur. Et c'est clair dans ce passage et dans d'autres, par exemple Philippiens, où il va dire « Mourir m'est un gain parce que je pars pour être avec Christ que ça, c'est l'espérance de chaque croyant. On part de vivre ici et sans passer même par la mort spirituelle, on se trouve en train de vivre dans la présence du Seigneur, en esprit. Alors, avec cela en tête, trouvez 2 Corinthiens chapitre 12. Vous êtes déjà 2 Corinthiens, trouvez chapitre 12. Et ça, c'est un passage très curieux. On l'a lu tout à l'heure avec les hommes, et il y avait même des questions là-dessus. Et Paul se trouve juste pour expliquer un peu, il se trouve dans une situation très, très difficile et délicate, parce que il est en train d'être très attaqué par des gens à Corinthe et des gens qui veulent en fait le remplacer par des faux apôtres. Donc, il n'est pas là pour se vanter de lui-même, mais il doit quand même défendre son apostolat parce que sinon, il laisse de la place aux faux apôtres. Donc, pour la vérité, il doit se défendre. Ce n'est pas une question d'honneur personnel, c'est une question de vérité, le rôle que Dieu lui a donné dans la fondation de l'Église de Jésus-Christ. Et donc, il leur dit ailleurs, il dit, c'est vous qui me poussez à le faire, mais il faut se glorifier, il dit, 2 Corinthiens 12, 1. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi. Et si on prend la chronologie de la vie de Paul, 14 ans serait juste après sa conversion, hein, quand il passe 10 ans en seul, solitaire, tout seul, et le Seigneur est en train de lui révéler des choses. Et là, il fait référence à lui-même, hein, ça devient clair en lisant qu'il parle de lui-même, mais en troisième personne, parce que ça le gêne aussi de le dire. C'est pas de ça qu'il veut vanter. Mais il doit, comme avec les Galates, il doit leur dire, aux Galates, il va dire, moi j'ai pas reçu ces choses des hommes, c'est Christ lui-même qui m'a révélé ces vérités. Il doit insister sur le fait qu'il a reçu ces choses de Jésus-Christ. Et donc il dit, il y a 14 ans, je connais un homme qui fut ravi. Le mot ravi ici, c'est le même qu'en Actes chapitre 8, verset 39, où il dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva, ravi Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Ça, c'est le mot. Philippe fut enlevé. 1 Thessaloniciens 4, 17 l'utilise aussi. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, et c'est ce mot, enlevés, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous aussi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons enlevés. Là, c'est l'âme, l'esprit, le corps, tout. Nous serons enlevés pour être pour toujours avec le Seigneur. Et là, il dit, je connais quelqu'un qui a été enlevé, qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Il y a trois cieux. Il y a les oiseaux qui volent dans le ciel. C'était le premier ciel. Puis il y a ce que nous on appelle en français l'espace, on appelait ça le deuxième. Et le troisième avait référence à ce qu'on appelle le ciel, le paradis. Et je fus donc ravi jusqu'au troisième ciel. Et puis il dit entre parenthèses, ce qui est intéressant, il dit, si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne le sais pas. Pas Dieu le sait. Il dit verset 3, et je sais que cet homme, et là il répète, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il fut, quel est le mot là ? Enlevé. C'est le même mot traduit ravi au verset 2. Je ne sais pas pourquoi ils utilisent deux mots différents, mais il fut enlevé dans le, et là il. Au lieu de dire troisième ciel, il va dire dans le paradis, et qu'il entendit des paroles merveilleuses. Okay. Il y a quelque chose, je crois, qui peut nous aider, même quand on pense à ceux qui sont au ciel maintenant. Il dit, moi je suis enlevé, et franchement je ne peux pas vous dire si j'étais toujours dans mon corps ou pas. Qu'est-ce que ça suggère par rapport à son expérience ? Que ce n'était pas forcément différent que s'il n'avait pas de corps. En se disant, mais est-ce qu'ils sont en train de flotter dans les airs et j'ai pas de bras, on sait pas exactement, on sait qu'ils attendent comme nous la résurrection de leur corps. Mais on peut dire que leur expérience du ciel est pas différent que s'ils n'avaient pas de corps, parce que Paul ne sait même pas si quand il fut enlevé, ce fut avec son corps ou sans son corps. Mais dites-moi, si ça a été sans son corps, il aurait pu dire que ça a été en esprit, n'est-ce pas ? Au lieu de dire, je ne sais pas si c'était en esprit ou non, il dit, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou non. Jean va nous dire, ah, je sais que c'était en esprit. Je fus enlevé, transporté en esprit. Paul peut pas nous dire. Il sait pas. Mais ça n'a pas changé son expérience et sa vision des choses. Et il entendit des paroles merveilleuses, il dit, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Lui, il n'a pas eu le droit de l'exprimer. Jean, plus tard, aura le droit d'écrire des choses. Mais même avec l'apôtre Jean, si vous continuez à lire Apocalypse, et à un certain moment, il voit des choses, il se met à écrire, et on lui dit non, stop. Ces choses, tu ne veux pas les écrire. Donc il y a même des choses que Jean va expérimenter qu'il ne peut pas dire. Alors revenons en Apocalypse pour voir donc la quatrième occurrence. Apocalypse 1:10, on a vu ça déjà. Apocalypse 21:10, 17:3 et maintenant Apocalypse 4, verset 2. Et voici pourquoi je crois qu'il est important de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par « en esprit ». Car c'est vraiment le contexte d'Apocalypse. Tout le contexte d'Apocalypse, c'est Jean en esprit. Et dit Apocalypse 4, verset 1, donc c'est juste après les lettres aux sept églises. On commence la deuxième partie du livre, et qui est la plus grande partie. « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son de la trompette, vous vous rappelez de cette voix ? On vient d'en parler, hein. Eh bien, cette même voix qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et aussitôt, je fus, et c'est la même phrase encore, en esprit. Traduit par la traduction de Genève, je fus saisi par l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Louis II, 1910, dit « Aussitôt, je fus ravi en esprit. » Et je crois que c'est la meilleure traduction. « Je fus en esprit, je fus ravi dans mon esprit. » Et il est... Bon, il dit pas ici « transporté ». On le voit, parce qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y a la voix qui dit « Monte ici !» Et tout d'un coup, il est en esprit et il voit le trône. Et quelqu'un assis dessus. Donc il est transporté dans cette salle de trône, mais il est transporté en esprit. Et donc il y a quelque chose, clairement, de miraculeux. Et c'est la même chose, je crois que c'est la même chose que nous allons connaître lors de notre mort. Parce que Jacques 2, 26 nous donne une définition de ce qu'est la mort. Il dit, comme le corps sans esprit et mort. Tu prends un corps, quand est-ce que le corps, quand est-ce que la personne meurt? Quand il y a le corps sans l'esprit. Tant qu'il y a l'esprit, elle n'est pas morte. C'est quand le corps est sans esprit que le corps est mort. Et la Bible dit que pour le chrétien, être absent du corps, c'est où ? D'être présent avec le Seigneur. Donc, dès qu'il y a cette séparation de l'esprit et du corps, le chrétien est dans la présence du Seigneur. En esprit, mais il est dans la présence du Seigneur. Et je crois que c'est cette expérience que Jean reçoit. C'est un miracle, bien sûr, mais il y a une voix qui dit « monte » et il dit « je fus aussitôt en esprit ». Devant le trône. Ça, c'est l'expérience. Quand il y a quelqu'un de très proche qui meurt, qui est en Christ, on pense à ça. Hein, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon papa, là, qui, le dimanche après le culte, je pense, voilà, le Seigneur lui a dit monte, et d'un coup, il est devant le trône, en esprit, mais il est là. Et c'est l'expérience de Jean ici. Parce que le corps sans l'esprit est mort, mais l'esprit sans le corps est soit avec Christ, soit en enfer. Quelqu'un qui meurt sans Christ est tout de suite en enfer. Jésus dit même, vous êtes déjà condamné. Déjà condamné. Celui qui rejette Christ est déjà condamné. Il n'attend que la mort pour que la peine, la pénalité tombe sur lui. Et donc, pour revenir au chapitre 1, verset 10, je crois que si on voit très clair qu'avec les trois autres fois qu'on trouve en esprit, c'est clair qu'il parle de son propre esprit, qu'il est transporté en esprit, je crois que la meilleure traduction pour chapitre 1, verset 10 serait cette même idée. En esprit, où je fus transporté en esprit, où je fus ravi en esprit. Et puis, il voit des choses qu'il doit écrire. Donc, les réalités, qu'est-ce que ça nous dit de tout ce qui suit dans l'Apocalypse? C'est que ces réalités sont des réalités qui sont pas visibles à l'œil physique, mais que en esprit, l'Esprit de Dieu a pu les révéler à Jean. Et donc, je crois que nous pouvons avoir trois applications. Je vous donne ces trois applications. La première, c'est n'ayons pas honte de la place du surnaturel dans notre foi. N'ayons pas honte que la place que joue, si vous voulez, le surnaturel dans notre foi. Bien sûr, nous croyons dans le surnaturel. On ne serait pas chrétien si on ne croyait pas que Jésus est vraiment né d'une vierge. Pas d'une jeune fille seulement, d'une vierge. Que Dieu, qui habite hors du temps, a pris chair. Et Dieu est devenu homme pour être Dieu et homme au même temps. Que Dieu agit toujours dans l'univers et dans ce monde. Nous croyons dans le surnaturel, nous croyons dans le ciel qui a un troisième ciel. Pas seulement le premier, bon ça tout le monde est d'accord, le deuxième, oui là aussi on est d'accord, on est parti en espace, etc. Non, mais qu'il y a aussi un troisième, nous y croyons. Quelqu'un a posé la question, je me rappelle quand j'étais jeune, est-ce qu'on peut être chrétien sans croire dans les miracles? J'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut même poser cette question? Chrétien sans croire en miracles, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Donc n'ayons pas honte de la place du surnaturel dans notre foi. Deuxième application, restons conscients de la réalité actuelle du monde spirituel. Restons conscients de la réalité actuelle du monde spirituel. C'est-à-dire, il y a un monde spirituel. Et Paul va dire même que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous, notre lutte, vraiment contre ces puissances ennemis, mais qui sont des puissances dans le domaine spirituel. Et que ces puissances, que Satan, il peut, on ne sait pas comment, mais il peut communiquer des pensées même à notre esprit. Vous savez ça? Il peut mettre des pensées dans notre esprit. Pierre va dire à Ananias et Saphira, il a dit, mais comment est-ce que Satan vous a mis ça dans le cœur pour faire ceci? On lit de Judas que Satan carrément a mis ça en lui, est entré en lui pour le pousser. C'est pas une question d'être possédé par un démon, mais il y a une influence qu'il a sur lui et c'est un combat. Un combat qui doit être mené d'une façon spirituelle, bien sûr. Mais restons conscients de la réalité actuelle du monde spirituel. Si on va rayer des réalités spirituelles comme possibilité, on doit jeter le livre d'Apocalypse, parce que le livre d'Apocalypse, c'est toutes ces réalités spirituelles qui sont, beaucoup de choses sont actuelles, avec des saints au ciel qui prient le Seigneur, mais qu'on ne voit pas. Et puis, troisième application que je tire pas de ce passage, mais de 2 Corinthiens chapitre 12 que nous avons lu. Est-ce que les femmes ont lu ce passage, oui ou non? Ah, vous avez 0 sur 10 aujourd'hui. Dans ce passage, bon, les hommes vont nous aider. Dans ce passage, on a déjà lu, il parle, je connais quelqu'un qui a été ravi jusqu'au troisième ciel, etc. Mais après, il dit, mais moi, dans ma vie, je veux pas me vanter de ces choses. Il dit, moi, je vais me vanter de quoi? Il dit, de mes faiblesses. De mes faiblesses. Et puis, il parle d'une de ses faiblesses. Et il dit, c'est le même passage, hein, vous pouvez relire après, mais moi, je vais reprendre le même chapitre au verset 8. « Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, il vient de dire, « Je connais quelqu'un qui a été ravi, enlevé jusqu'au ciel. » Là, on dit, « Bon, j'écris un livre. » Tout de suite, j'écris un livre, voilà. Imaginez, je vais faire des conférences, je vais mettre à voyager le monde. Timothée qui a passé une semaine au ciel. Il y a des gens qui tentent ça. Hein. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plaît dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est quelqu'un qui a été ravi au ciel qui dit ça. C'est pas n'importe qui dit ça. C'est quelqu'un qui a connu le ciel, et dans le même paragraphe, il connaît une écharde de l'ennemi que Dieu permet dans sa vie. Et il dit, quand je pense à lui-même, hein, dans ma propre pensée, en quoi est-ce que je vais me glorifier? Qu'est-ce que je vais magnifier dans ma vie? C'est mes faiblesses. Parce que quand je suis faible, c'est alors que la puissance de Christ peut agir en moi. Et nous savons qu'il n'y a plus de révélation comme Jean a eu ou comme Paul a eu. C'était des apôtres, c'est pas que Christ ne pourrait pas le faire, mais on n'a pas le même rôle dans l'Église que ces apôtres avaient. Mais même eux qui ont reçu ces choses, ils se glorifiaient de leur faiblesse. Et on le voit ça même dans la vie de Jean. Je termine avec ce, parce qu'on l'a lu, mais je le répète, quand il dit au verset 9, « Moi, Jean, votre frère, et de toutes les choses qu'il pourrait dire, qu'est-ce qu'il dit ?» qui est par avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Il ne se vante pas, il ne se vante pas, il dit, j'ai part avec vous à la tribulation. Oh, lui aussi, il se glorifie dans ses faiblesses. Donc ça, c'est la troisième application, c'est que ce dans lequel nous devons nous glorifier, c'est pas que nous avons beaucoup de connaissances. Ah, je connais bien le livre d'Apocalypse, ou je connais beaucoup de théologie, ou j'ai beaucoup mémorisé, ou j'ai eu beaucoup d'expériences. Vous savez, il y a des gens qui sont pleins de leur expérience. Ils veulent que parler de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, etc. Non, glorifions-nous de notre faiblesse. Et cherchons à connaître la puissance de Christ en nous. Car, lorsque je suis faible, c'est alors qu'en Christ que je suis fort. Seigneur, merci pour ta bonne parole. Et nous te remercions pour la bénédiction que c'est de pouvoir lire ce que Jean, ton apôtre, a vu. Il est un témoin fiable qui dit la vérité, et aide chacun de nous à lire ce qu'il dit avec une entière confiance qu'il ne ment pas, qu'il n'exagère pas, qu'il ne dissimule pas la vérité, mais qu'on l'accepte comme on l'accepterait tout témoin ici sur terre, parce qu'il a été instruit pour écrire et inspiré aussi pour écrire ces choses. Et donc, quoique nous n'ayons pas eu l'expérience qu'il a eue, nous avons le récit de cette expérience. Et nous pouvons en profiter. Et tu promets que tu béniras ceux qui lisent et ceux qui écoutent ces paroles. Donc aide-nous à le lire, à l'écouter et à le mettre en pratique. Nous prions au nom de Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.